Bonsoir, c'est le magazine sur Radio B, un magazine littéraire. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir le scénariste, romancier et réalisateur burgien de naissance et francilien d'adoption Antoine Renan, dont le quatrième roman « L'Empathie, tome 2 » est paru le 12 octobre 2023 aux éditions Robert Laffont dans la collection Bête Noire. Antoine, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous préférez le mot auteur, écrivain ou romancier lorsqu'on vous présente ?
En fait, c'est un peu les trois. Hein. J'écris des romans, je suis auteur parce que je suis également scénariste. Et j'aime bien le mot écrivain parce que j'essaye, dans ce que j'écris, de mettre une dimension littéraire quand même si c'est du polar. Donc voilà, j'utilise les trois mots.
Ouais, mais plutôt écrivain.
Écrivain, j'aime bien.
Ouais. Ouais. Bien. Alors, j'aurais envie de dire que les fans de polar et de thriller vous connaissent forcément depuis la sortie en 2019 de votre premier roman, L'Empathie. Sur Bourg-en-Bresse et ses environs, c'est loin d'être le cas. Alors, nul n'est prophète en son pays. Vous qui êtes né à Bourg-en-Bresse, vous êtes parfois surpris que tous les lectrices et les lecteurs burgiens, fans du genre, le polar et le thriller, ne vous connaissent pas ou ne vous aient jamais lu.
Il y a quand même certaines personnes qui m'ont lu dans la région. Après, tout le monde ne peut pas me connaître. Mais on a des grosses librairies à Bourg. Ça, c'est des choses dont je me suis aperçu en rentrant dans ce milieu, dans l'édition. La librairie du théâtre, Montbarbon. On a également Cultura et la FNAC. Mais c'est vraiment une ville de livres, de libraires. Et beaucoup de gens lisent quand même à Bourg. J'ai fait des dédicaces ici et du monde... Du monde était venu. Je pense qu'on a une ville littéraire et même assez cinéphile aussi. Il y a toujours eu des cinémas. Moi, quand j'ai grandi ici, il y avait la Grenette, il y avait l'Éden. Aujourd'hui, il y a ce nouveau cinéma. Voilà, une ville assez portée quand même sur tout ça.
Ouais. Alors, vous avez fait toute votre scolarité jusqu'au baccalauréat à Pérona et puis à Bourg-en-Bresse. Quelle était la place de la lecture et de l'écriture à cette époque, avant de partir pour les hautes études cinématographiques ?
J'ai toujours aimé écrire. En tout cas, c'est quelque chose dans lequel je me sentais à l'aise. C'est pour ça que je me suis orienté vers ça. En fait, c'était vraiment la chose qui se détachait dans ce que j'aimais faire. J'ai toujours lu aussi. J'étais enfant unique, donc on s'ennuyait un petit peu à l'époque. Il n'y avait pas Internet, tout ça, et il fallait lire. J'avais des parents qui me poussaient à lire. Et j'ai commencé par des polars, justement. Avant ça, j'ai lu des choses que lisent les enfants, quoi, la Bibliothèque Rose, tout ça. Mais vers l'adolescence, j'ai été très marqué par Agatha Christie. Après, j'ai lu d'autres romans. Enfin, j'ai lu des choses très grand public aussi, comme Mary Jeans Clark. Mais voilà, du polar, j'ai découvert tout ça. Et c'était important pour moi, comme le cinéma. C'était deux choses qui comptaient beaucoup pour m'évader.
Alors, vous avez continué vos études, vous dites, en intégrant une école de cinéma, le 7e art est plus qu'une passion que l'écriture.
Pardon, plus une passion que...
Ouais, le cinéma est-il plus une passion que l'écriture ?
Le cinéma, je suis fasciné par... C'est le 7e art, c'est l'art qui regroupe tous les autres. Et il y a la photographie, il y a la musique, il y a l'écriture aussi qui est très importante dans le cinéma, le scénario... l'image. Et moi, je me suis orienté vers le cinéma par rapport à l'écriture, en fait. Je voulais au début... Après, j'ai aussi appris la mise en scène. J'ai fait des courts-métrages comme réalisateur parce que j'avais envie d'aller au bout de ma vision. C'est quelque chose d'important pour moi, ça, quand j'écris, c'est d'aller au bout de ce que j'ai envie de faire. Et si je fais un jour des films, des longs-métrages, ce que j'ai pas encore fait, j'aimerais aussi les mettre en scène. Parce que... Mais au départ, il y a cette impulsion de l'écriture, d'écrire des histoires. Et au tout début, avant d'aller faire des études de cinéma, je réfléchissais, cœur balancé entre les romans et entre les scénarios. Et je me sentais plus apte à commencer par le scénario pour plein de raisons. Voilà. Mais c'est par l'écriture que je me suis vraiment intéressé beaucoup au cinéma.
Alors, quels sont vos maîtres, vos films de chevet, vos genres préférés dans le cinéma, déjà forcément liés au polar et au thriller ?
Dans ce que j'ai écrit, naturellement, je vais vers ce genre-là. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Les sujets qui m'intéressent, j'ai tendance à les transformer en noir, à me servir du thriller, de ces codes. Après, moi, en tant que spectateur, je suis très ouvert, je regarde beaucoup de choses. Mes films préférés, enfin, mon film préféré, c'est Heat de Michael Mann. Donc, on est en plein polar, c'est avec Al Pacino, De Niro. Et oui, il y a beaucoup de polars qui me sont très importants, mais pas seulement. C'est assez varié. C'est assez varié, non?
Alors, vous vous êtes ensuite lancé dans l'écriture de scénarios, que ce soit pour le cinéma ou la télévision, si je suis bien renseigné, si j'ai bien lu. Vous étiez encore très loin de vous lancer dans l'écriture de romans, ou cette idée de roman vous titillait déjà l'esprit ?
J'ai toujours, dans mon souvenir, toujours eu envie d'écrire des romans, même quand j'étais adolescent. Une fois, je me suis lancé, je me souviens, j'étais jeune, mais c'était vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire, j'avais l'impression, c'était comme un enfant qui voudrait gravir une montagne, en fait. C'était impossible, j'ai écrit quelques lignes, et puis voilà, je ne savais pas ce qu'il fallait faire d'autre. Ensuite, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai fait des essais, mais je n'étais pas satisfait. Je pense quand même, enfin moi, j'envisage les choses comme ça, et je pense qu'il faut quand même avoir un petit vécu pour écrire des romans qui touchent les gens. Alors ça dépend, il y a des gens qui sont plus précoces que d'autres. Et moi, en tout cas, à 20 ans, je pense que j'avais pas les armes. J'avais les armes pour écrire de bonnes histoires, mais vraiment pour mettre des choses dans les personnages, tout ça, c'était un peu tôt. Donc, et j'ai fait plein d'essais au fil des années, en me concentrant à côté de ça sur les scénarios. C'était vraiment les scénarios que je voulais faire. Je voulais faire du cinéma, mais j'avais cette idée en tête. Et puis, cette idée en tête d'un jour d'essayer de faire un roman. Et puis, j'étais aussi encouragé par mes proches. Ça, on me disait souvent, mais tu devrais te lancer dans le roman. Parce que le cinéma a un parcours très, très compliqué. Et un jour, j'ai eu l'idée de L'Empathie, mon premier roman. Et L'Empathie, bon, c'est quelque chose de très radical, c'est quelque chose de très sombre. Et j'ai senti que pour un scénario, connaissant les producteurs, parce que j'avais pas mal de rendez-vous avec des producteurs, avec pas mal de refus, je voyais toutes leurs peurs. J'ai senti que L'Empathie, ils en auraient tous peur. Donc, me lancer dans un an d'écriture de scénario pour au final pas arriver à le vendre, à avoir leur intérêt, ça ne servait pas à grand-chose. Et en revanche, j'ai senti que j'avais là ce que je cherchais depuis des années comme sujet pour écrire un roman. Parce que j'avais à la fois une trame de thriller avec vraiment une traque, comme on retrouve, sans me comparer à ces chefs-d'œuvre, mais Le silence des agneaux, ce genre de choses. Et en même temps, j'avais la possibilité dans cette histoire d'aller vraiment dans la psychologie des personnages. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et de faire un truc un peu hybride, en fait, entre le polar et entre un livre qui pourrait presque être de littérature générale. C'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas une littérature de genre. Il y a des moments dans L'Empathie où on sort du côté vraiment thriller de l'enquête pour être dans de la psychologie, en fait, dans des personnages. Et je ne savais pas du tout si je serais publié, mais je me suis dit qu'il fallait que j'essaye, là, que j'essaye de l'écrire.
Donc votre premier roman n'est sorti qu'en 2019, enfin sorti en 2019. La gestation a été longue.
J'ai commencé l'écriture en 2016, je crois, de ce roman. Le début n'était pas facile, après je me suis vraiment lancé et j'ai mis à peu près 2 ans d'écriture. C'est en 2018 que j'ai cherché un éditeur, donc que j'ai fait le tour des éditeurs, et là c'est allé assez vite. Et en 2018 j'ai signé mon contrat et le roman est sorti un an après, en janvier 2019.
Vous êtes quelqu'un qui prenait du temps pour écrire ?
Oui, je prends du temps, un peu trop même. Là, c'est le problème, c'est qu'il y a pas mal d'auteurs qui mettent un an. Qui sortent vraiment un livre à la date anniversaire de la parution précédente. C'est pas évident, hein. Faut quand même aller très vite, parce qu'il y a toute la phase de correction aussi, le travail avec l'éditeur. Là-dessus, on est tous inégaux. Il y a des gens qui écrivent très très rapidement, et d'autres qui prennent plus leur temps. Moi, j'ai besoin quand même qu'il y ait une gestation, j'ai besoin de réfléchir au scénario, parce que dans un polar, il y a la phase scénario, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire. Après, il y a tout le travail sur le style, il y a tout... Et c'est pas évident, ouais, de se relancer. Donc mon rythme idéal, je pense que ce serait 2 ans, mais c'est un peu long. Là, c'est ce que j'ai fait sur le précédent, et j'aimerais faire plus rapide, disons entre un an et un an et demi.
Alors votre premier roman s'appelle L'Empathie et est paru donc en 2019, déjà aux éditions Robert Laffont et dans la collection La Bête Noire. Vous étiez un inconnu dans le monde de la lecture à l'époque, personne ne vous connaissait.
Dans l'édition, Ouais.
Ça fait quoi cette marque de confiance, quasi immédiate, quasi immédiate, quoi. C'était rapide, quoi.
Oui, avec le recul, ça a pris assez vite. Bon, déjà, mon éditeur était, Il croyait beaucoup en ce roman, il en a beaucoup parlé autour de lui. Et il y a quelque chose de très important aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe sur Internet. Parce que la presse compte beaucoup, mais la presse est là ou elle n'est pas là, ça dépend. Et après, il y a tout ce qui se passe aussi sur les blogs, sur les réseaux sociaux. Et on a eu pas mal de gens qui l'ont lu au début et qui en ont fait des retours assez forts, ce qui donne envie à d'autres de lire. Et ça a pris, mais le livre surtout s'est mis à... Il y a eu La Vie en poche aussi, parce que la vie d'un livre en poche, c'est important. Et un an après, le livre est sorti en poche, c'est comme une deuxième naissance. Et là, ça a encore pris. En plus, j'avais eu un prix, le prix Pocket, c'est l'édition poche. Et voilà, il y a eu un bouche à oreille qui s'est mis en place. Et puis après on fait des salons, on rencontre les lecteurs, on sort d'autres romans et parfois les gens suivent.
Ouais. Vous êtes encore surpris de tous ces éloges 4 ans plus tard ?
Je sais que ça dépend des romans. Donc, moi en fait, quand je me lance dans un roman, j'y crois. J'avais entendu une phrase de Colline Serrault, qui était la réalisatrice de Trois hommes et un couffin, qui est un peu sous-côté, mais c'est une grande scénariste pour le coup. Et elle disait, on lui demande parfois, est-ce que vous êtes surpris du succès de tel ou tel film ? Et elle dit, je suis surpris quand ça ne marche pas. Il y a un peu ça, c'est-à-dire que ça peut faire bizarre, mais moi en fait je suis surpris quand ça ne prend pas, parce que j'y crois tellement quand je me lance, j'essaie tellement de mettre d'énergie dans ce que je fais, que c'est quand ça ne marche pas que je suis déçu. Après, c'est toujours, il faut quand même savourer quand ça marche, et c'est toujours effectivement un petit miracle. Mais pour que je me lance dans quelque chose, c'est que je pense que ça peut toucher les gens, au départ.
Alors, lorsqu'on tape sur Internet Antoine Renan, sur son moteur de recherche préféré, on trouve donc de très nombreux articles, très souvent très élogieux. En 2021, sur le site belge de Marie-Claire, votre premier roman, L'Empathie, figurait même parmi les 14 polars à lire au moins une fois dans sa vie. Comment on vit ça ?
Ouais, je ne me rappelais pas ça, peut-être.
comment on vit ça ?
Ouais, oh, ça c'est des... Pourquoi on tombe dans tel classement ou pas Non, on est content, on n'en rit pas, on est content. Je pense que quand j'ai vu ça, je devais... Parce qu'effectivement, ça me dit vraiment quelque chose. Mais elle avait dû beaucoup aimer le roman, hein, donc c'est chouette. Après, des fois, on voit d'autres romans dans des classements comme ça et on relativise, hein, on se dit, celui-là, il n'était pas si ouf, donc voilà. Mais je suis très content. Moi, je suis très content quand le livre touche les gens, ça rejoint un peu la question précédente, mais je lis tout, moi, en fait. Je lis tous les retours qui sont sur Internet, les chroniques, et parfois, il y a des gens qui ont un rejet aussi, hein. On n'a pas que des bons retours, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout, et je respecte totalement, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas le roman, c'est comme ça, c'est que j'ai pas réussi à le toucher, et ça n'a pas marché. J'ai rien à dire sur ça, mais quand ça marche, quand les gens sont touchés, parce que c'est ça en fait, L'Empathie, c'était un roman aussi qui parlait de sujets très intimes, et j'ai eu les gens qui ont vraiment, vraiment aimé le roman, c'est ceux que ça a touché en fait. Et c'est quelque chose de fort, c'est très fort, ouais.
Mmh. Alors, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis la sortie et le succès de L'Empathie ?
Je me consacre maintenant avant tout au roman. Je n'ai pas complètement écarté le cinéma de ma vie, ça reste un objectif, mais c'est compliqué. En plus, les cinémas ont tellement souffert, il y a eu le Covid, maintenant il y a Netflix avec lequel je suis moins en phase. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, le cinéma, où ça va mener. Moi j'aime beaucoup écrire des romans, j'aime la liberté que ça procure, la possibilité d'aller au fond des personnages. Je sais en plus que des gens vont le lire derrière, quoi, parce que quand j'écrivais des scénarios, je ne savais pas ce que ça allait donner auprès des producteurs. Donc c'est un grand plaisir d'écrire des romans. Après, c'est fragile, tout ce qui touche à l'artistique, on sait ce qui se passe au présent, on ne sait pas ce qui se passe à l'avenir. Mais c'est que du positif, hein, au niveau... Moi, en fait, je souffrais beaucoup, ça fait une grande phrase, mais j'avais, par exemple, Fermer les yeux, c'est mon deuxième roman, et j'avais écrit cette histoire, je l'ai écrite en 2005, cette histoire, donc j'avais 26 ans, c'était mon premier scénario. Je l'ai écrit dans mon coin, hein, j'avais pas de producteur, et j'ai cherché des producteurs après, et au cours des 15 ans qui séparent l'écriture du scénario de Fermer les yeux, donc le roman, il y a eu plusieurs tentatives auprès de producteurs. J'ai eu ce qu'on appelle des options, c'est-à-dire des producteurs qui ont acheté les droits, qui ont essayé de le monter. des moments douloureux où ils m'ont complètement transformé l'histoire, des moments douloureux où les projets se sont arrêtés. Et un scénario, même si mes proches l'avaient lu, même si ses producteurs l'avaient lu, bah le public ne le connaît pas en fait, et ça n'existe pas. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui restent au fond d'un tiroir que les gens ne voient pas. Et ça, c'était un truc qui était très frustrant pour moi parce que ces personnages, je les avais créés. Des gens qui lisaient le scénario autour de moi me disaient, ils aimaient ça, quoi. Ils me disaient, c'était bien. Et en même temps, personne ne le voyait. C'est-à-dire que ça n'existait pas tant que ça ne devenait pas un film. Et le fait de pouvoir le transformer en roman 15 ans après, de remettre tout ce que certains producteurs m'avaient fait enlever, c'est-à-dire d'aller au bout de ma vision, ça a été fort. Parce que voilà, maintenant, ça existe. Ils existent, en fait. Ils sont virtuels, c'est-à-dire qu'ils sont... Mais si quelqu'un veut le voir, c'est sur papier, voilà. Et ça, c'est un peu une libération. Parce que se dire, ça m'est arrivé de me dire, mais si ça se trouve, tout ce que tu as écrit, là-bas, ça ne va jamais devenir des films. Et personne ne verra jamais, en fait. Tu auras juste à montrer ça à tes enfants quand ils auront 30 ans, que tu en auras 70. Et là, non, voilà. Là, ça existe. Voilà. Et ça, ça fait vraiment du bien quand on est auteur.
Alors, votre dernier roman s'appelle L'Empathie, tome 2. Il y a eu deux autres livres avant, hein, Fermer les yeux en 2020, puis S'adapter ou mourir en 2021. Le rythme d'un roman par an n'a pas été respecté. Hein, vous avez...
hein, ouais, exactement.
Vous avez besoin de souffler un peu, là.
Ouais.
Enfin, c'est une obligation, c'était légal, ou d'en sortir un par an, ou c'était parce que...
Je pouvais, j'étais assez souple. Hein. Enfin, vis-à-vis de ma maison d'édition, j'avais pas d'obligation de faire un par an, même s'ils aiment bien. Mais, ouais. Mais voilà, ils respectaient que le roman n'était pas terminé. S'adapter ou mourir, c'était vraiment un gros roman. Et après, j'ai pas mis si longtemps que ça. Hein. J'ai mis un an et demi. Et c'est un roman, j'avais mis beaucoup de moi, même si ça n'est pas mon histoire. J'avais mis beaucoup de moi dans les personnages. C'était très sombre. Et avant de repartir sur L'Empathie, tome 2, en fait, j'ai eu besoin. Enfin, j'avais enchaîné trois romans d'affilée. Et j'avais besoin un peu de souffler. Et L'Empathie, tome 2, était un roman difficile aussi, même si c'était une suite. Mais justement, pour moi, faire une suite, c'est pas évident. Et du coup, j'ai mis 2 ans. C'est là où j'ai trouvé que 2 ans, c'était un peu trop, quand même.
Alors, lorsque vous aviez écrit L'Empathie, vous saviez forcément qu'il y aurait une suite ?
Non, pas du tout. C'est un film, c'est un livre bouclé, L'Empathie. Il y avait une fin. Moi, tout de suite, les éditeurs m'ont demandé est-ce que t'as pensé à une suite ou des suites. Ah, oui. Et j'ai dit non. Ça m'étonnait même comme question parce qu'ils avaient lu le bouquin et pour moi, il n'était pas question de suite. Mais en fait, je me suis aperçu que dans l'édition, il est très fréquent que des enquêteurs reviennent dans des suites. Ça se fait beaucoup. Et les lecteurs me demandaient souvent quand j'étais en dédicace, et on va revoir tel personnage ou pas. Je leur disais, non, c'était un one shot. Et petit à petit, c'est venu de moi, c'est moi qui ai eu. Ça a travaillé, quoi. Je me suis dit, pourquoi pas. Effectivement, il y a un service de police très particulier dans le 1. J'ai eu des idées qui sont venues, voilà, que j'ai notées au fur et à mesure. Et un jour, je me suis dit que c'était le bon moment, peut-être pour faire une suite. Mais je voulais pas le faire sans avoir vraiment quelque chose à raconter. Je voulais pas que ce soit juste un prétexte, quoi, de faire une suite. C'est pour ça aussi que ça m'a pris du temps. Puis il y avait des questions. Est-ce que je fais revenir certains personnages importants ou pas? Parce que c'est des personnages qui, pour moi, avaient fait un cheminement déjà. Mais les choses sont venues petit à petit. Et oui, je voulais que ce soit que le résultat soit fort, parce que comme j'avais eu des retours forts sur le 1, il fallait pas que les gens soient déçus. J'ai pris le temps pour le faire, et voilà, je me suis lancé dans le 2.
Donc sans trop en dire, quelle est l'histoire de L'Empathie, tome 2?
On retrouve donc L'Empathie se passait dans un service de police qui existe vraiment, qui est surnommé la brigade du viol. Ça se passe à Paris, et ils enquêtent sur des affaires comme ça très dures de viol, de violeurs en série. Et on retrouve donc ce service de police avec une nouvelle policière qui arrive, qui va enquêter sur d'abord une affaire de... Alors ça, c'est un peu d'actualité, c'est des mecs qui sont dans les boîtes de nuit et qui piquent des femmes avec des seringues de GHB. Avant, c'était juste des comprimés dans les verres. Maintenant, il y a des gens qui piquent des femmes avec des seringues. Et elle va enquêter sur une autre affaire, un peu dans... un peu comme celle d'Alpha dans le numéro 1, c'est quelqu'un qui s'appelle Serflex, et c'est quelqu'un qui prévient ses victimes à l'avance. Il a prévenu des dizaines de femmes en France depuis des décennies qu'un jour il s'attaquerait à elles. Il le fait ou il le fait pas, mais il aime les plonger dans une terreur, en fait. Et ce personnage-là, quelqu'un a travaillé sur ce dossier des années avant. C'est le personnage principal de L'Empathie, tome 1, qui était Anthony Roche, qui était surnommé La Poire. Et Anthony Roche va revenir dans l'histoire. Voilà, il va se passer des tas de choses dans le roman.
Donc Margot Tréabol, hein, la nouvelle venue dans la brigade du viol. Pourquoi une femme, c'était une évidence pour vous?
Vu que celle... Oui, c'était une évidence.
C'était la suite.
C'est pas, c'était une question d'équilibre, une question de feeling. Parfois, je ne me pose pas forcément les questions avec raison. Hein. Parfois, c'est juste comme je ressens les choses. Mais oui, je trouvais ça amène aussi quelque chose par rapport à L'Empathie. Dans L'Empathie, il y avait un personnage féminin aussi qui était important. Mais on était peut-être moins dans sa tête que dans cette... Parce que là, elle, c'est vraiment le personnage principal du numéro 1. Anthony Roche, du numéro 2, pardon. Anthony Roche est très important aussi, mais il est légèrement en retrait alors qu'il était central dans le numéro 1.
Bien, des autrices et auteurs débutent par le roman et passent ensuite par la case scénariste. Ben, je pense à Franck Tilliez, Nicolas Lebel ou Petroni Rostagna. Vous, comme Nico Takian, c'est l'inverse, il me semble.
Nico Takian, je ne sais pas. Ce que, ben, je ne connais pas son parcours. Je le connais, mais je ne sais pas par quoi il a commencé.
À Vienne, ils en ont parlé.
Ah, d'accord.
C'est pour ça. Donc, c'est plus facile d'écrire et de publier un roman que d'écrire et de signer un scénario.
Alors, il y a deux choses dans le scénario. Il y a vraiment la télévision et il y a le cinéma. Beaucoup de mes confrères travaillent pour la télévision. Moi, je suis un peu dur avec la télévision française. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas. Je suis vraiment un passionné de cinéma français. J'ai toujours vu des films français comme des films américains et je continue à avoir énormément de plaisir. Par exemple, Anatomie d'une chute, là, il n'y a pas longtemps, c'est vraiment un très grand film qui va sans doute avoir encore plein de récompenses. La télévision française, bon, alors en général, on parle de séries qu'il y a sur Canal+ ou sur Arte, mais j'y trouve beaucoup moins mon compte. Et je ne suis pas forcément fan de ce sur quoi vont travailler mes confrères auteurs à la télévision. Ça, c'est que mon avis personnel et je réponds juste à la question. Hein, mais on n'a pas forcément le même parcours. C'est-à-dire que moi, j'ai un amour du cinéma profond, j'ai des goûts, je sais ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et aller travailler sur une série où on va me tordre le bras en me disant non, tu dois écrire ça, ça ne m'intéresse pas en fait. Voilà, je n'ai pas envie de faire ça. Et en revanche, moi, j'aimerais faire je ne sais pas si j'ai envie de faire du scénario, juste du scénario et que quelqu'un d'autre réalise. Mais j'ai envie d'aller moins au bout de ma vision comme dans les romans. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de... Tous les auteurs que je rencontre là, dans le roman, ils ont envie de faire du scénario. Ouais. Et tous les scénaristes que je rencontre, ils ont envie de faire du roman. C'est-à-dire, les scénaristes me disent « Oh, qu'est-ce que j'aimerais faire un roman ?» on a beaucoup de liberté. Puis ils voient le roman comme quelque chose d'assez noble. Il y a plein d'écrivains que je vois qui ont envie de faire du scénario aussi parce qu'il y a une logique budgétaire derrière. Voilà. Après, il ne faut pas non plus idéaliser le scénario. Il y a beaucoup de scénaristes qui galèrent parce qu'ils sont mal payés. Mais bon, effectivement, il y a Franck Tillier et Nico Takian qui ont créé Alex Hugo. Ça, pour le coup, c'est un vrai succès. Ils sont créateurs de la série. Je ne sais même pas s'ils écrivent encore dessus, mais en tout cas, ils sont crédités à chaque fois que c'est diffusé. Voilà, mais être scénariste pour une série TF1, France 2... Après, il faut voir, hein, mais c'est pas... J'ai vraiment envie de faire ce que j'ai envie de faire. Et mes romans, on les aime ou on les aime pas, mais j'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire. J'ai mis ce que j'avais envie de mettre. Et je trouve que c'est assez sain comme envie, quoi. Peut-être aussi qu'il y a des gens qui s'épanouissent en ayant des compromis, et peut-être que c'est eux qui ont raison, hein, de faire les choses avec des compromis, de prendre l'argent, et voilà. Et j'avoue que moi, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à ce qu'on modifie trop ce que j'ai fait.
Alors, en 2020, on vous présentait comme un scénariste, réalisateur et écrivain que vous aviez écrit et mis en scène des courts-métrages primés en festival et diffusés à la télévision et auteur de plusieurs scénarii de longs-métrages en cours de production. Et juste à la fin, auteur de deux romans, ce sont les deux premiers romans, c'est ça, hein, quand on vous présente. Et puis, 2021, la sortie de S'adapter ou mourir, on vous présente comme écrivain, scénariste et réalisateur. Donc il n'est plus question de vos courts-métrages, de vos scénarios, de longs-métrages en cours de production, mais de vos succès en tant que romancier. Donc 4 ans après la sortie de L'Empathie, vous vous considérez plus comme un écrivain que comme un scénariste ou un réalisateur?
plus comme écrivain, parce que c'est comme ça qu'on me connaît maintenant.
Ouais.
Scénariste, mes courts-métrages, les gens ne les connaissent pas trop. Alors, c'était vraiment des fans de courts-métrages dans les années 2000.
Mais c'est marrant comme la façon de vous présenter a changé en deux ans.
En fait, ça vient de moi. C'est moi qui ai demandé à la maison d'édition de...
D'accord.
Parce qu'au début, ils devaient me présenter, me dire d'où je venais.
Ouais.
Et ils ont mis en avant ça.
Mm-hmm.
Alors déjà, il y a un petit truc qui m'a... Enfin, j'ai remarqué qu'ils le faisaient beaucoup après. Parce qu'en fait, moi, quand je suis arrivé dans la maison d'édition, ils m'ont dit au début... Ah, mais tu sais, au début, on a vu que tu étais scénariste. On se méfiait un peu parce qu'il y a beaucoup de scénaristes qui nous envoient des romans. Mais souvent... ils savent pas écrire des romans, c'est écrit comme un scénario. En fait, ça se présente pas du tout comme un roman, c'est très technique, quoi. On décrit vraiment ce qu'il y a à l'écran. Et je voyais ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire il faut se jeter dans l'aspect littéraire, en fait, pour écrire un roman. Donc au début, ils s'en méfiaient un peu et il devait y avoir des scénaristes dans le milieu, mais moins qu'aujourd'hui. Là, j'ai l'impression que là, en 2023, je vois très souvent des bios avec un scénariste, voilà. Donc déjà, je trouvais ça un petit peu moins... Non, puis à un moment, il fallait... c'est vrai qu'au début, ouais, personne ne me connaissait quand L'Empathie est sorti dans l'édition.
Ouais.
Et après, mettre en avant que j'étais réalisateur alors que je n'ai pas fait de long métrage. Donc même si moi, je me considère encore comme réalisateur et comme scénariste aussi, là où les gens qui ont vu mon travail, c'est 90% sur les romans. Donc c'est ça qu'il fallait mettre en avant,
ouais,
sur les derniers.
De toute façon, vos courts-métrages sont passés à la télévision s'il y a très longtemps.
Ouais, ça fait un moment, ouais.
Et sur Internet, on ne les trouve pas. Hein.
J'ai... ouais.
Non.
Ouais, ils ont vieilli un peu. Ils ont vieilli. Je suis plus satisfait de mes romans que des courts-métrages, d'ailleurs. Mes courts-métrages, j'ai du mal.
Vieux, hein.
Après, bon, les romans, je les relis pas non plus, mais les courts-métrages, c'était difficile. On avait un peu de moyens, mais il manquait toujours des trucs. Il y avait beaucoup de système D. C'est une époque où on tournait en pellicule. Là, maintenant, ça a beaucoup changé. Les gens tournent en numérique, c'est un peu pratique. Nous, c'était pellicule, il fallait se lancer. On avait 3 ou 4 prises, pas plus. Sur les 3 ou 4 prises, il y en avait souvent une où il y avait un poil, comme on dit, c'est-à-dire un poil dans la caméra, ce qui fait que la prise est foutue. Donc au final, on avait des fois 1 ou 2 prises pour avoir une performance qui convenait, et parfois ça convenait plus ou moins bien. Donc il y avait une magie dans tout ça, mais c'était compliqué. C'était compliqué d'avoir d'aller au bout pour le coup de sa vision, quoi.
Mais c'était entre 2001 et 2007, je crois, c'est ça ?
Le dernier, ouais, 2008, ouais.
Donc ça commence à dater, quoi. Donc...
Ah oui. Bah, c'est passé vite, mais ouais, ça date un peu maintenant.
Alors, vos 4 premiers romans se rangent dans la catégorie de la littérature noire, celle du polar et du thriller. Alors, est-ce une étiquette que vous aimeriez décoller un jour et écrire autre chose ?
Peut-être, mais j'assume complètement. J'aime bien le thriller, j'aime bien le polar. Je pense qu'on peut écrire de tout là-dedans. C'est plus un cadre, mais on peut parler, je ne sais pas moi, du chômage, du racisme, de trafic, de divorce, dans S'adapter ou mourir, moi je parle de la crise de la quarantaine, je parle du monde du travail, je parle de la modération de contenu. Voilà, tous les thèmes sont abordables. Mm-hmm. C'est pas évident de changer de genre dans l'édition. Ça, c'est quelque chose que je constate une fois qu'on a... Parce qu'en fait, c'est nous, c'est nos noms qui sont mis en avant et les gens attendent avec nos noms de retrouver quelque chose... Ils veulent pas dire la même chose parce qu'il faut quand même proposer quelque chose de différent, mais ils ont pas forcément envie qu'on les retourne complètement avec quelque chose de différent. Donc, par exemple, de la science-fiction, je pense que ce serait très compliqué de passer comme ça à la SF. Il y a des très gros auteurs qui y arrivent, mais ils ont une telle masse de gens qui les suivraient sur n'importe quoi que c'est possible. Il y a un exemple qui est parfait, c'est Pierre Lemaitre qui est passé. Lui, c'était vraiment un auteur de polar.
Mmh,
il est passé à la littérature générale et il a eu le prix Goncourt, donc on ne peut pas faire mieux comme parcours. Après, ça dépend du style de chacun, de ce qu'on a. Moi, parfois, la littérature générale me tente, j'ai certaines idées. Après, il y a une question de temps, est-ce qu'on le consacre à faire ça ou autre chose ? Je suis pas sûr qu'en livre on me voit on me verra jamais, je pense, faire de la romance, des choses de comédie ou science-fiction, ça m'intéresserait, mais je pense que ce serait compliqué. Littérature générale, pourquoi pas un jour, mais si ça n'arrive pas, c'est pas grave, j'aime beaucoup le thriller.
Alors, depuis la sortie de L'Empathie et son succès, vous êtes régulièrement invité dans les salons. Avant de les faire en tant qu'auteur, vous alliez régulièrement à la rencontre de romanciers et de romancières, vous ?
Non, jamais.
Jamais.
J'ai écrit une fois à Michel Houellebecq en 2005. J'avais lu, parce que mon livre préféré, c'était c'est La possibilité du Nil, un livre de Houellebecq, auquel je pense beaucoup quand j'écris. J'y pensais beaucoup quand j'écrivais L'Empathie, alors que je pense que pour les gens, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais moi, j'y pensais beaucoup. Et en lisant ce livre, parce que je me suis beaucoup ennuyé à l'école, en fait, avec les livres qu'on nous faisait lire. Après, c'est comme ça.
Pas que vous, hein. Pas que vous.
C'est bien d'apprendre les classiques, mais je trouve que ça manque de livres qui nous touchent. Et c'est pour ça que beaucoup d'adultes ne lisent pas, parce que c'est important à l'adolescence d'écouter des musiques qui nous touchent, de voir des films qui nous touchent, de lire des livres qui nous touchent. Et parfois, c'était trop étranger. Et quand j'ai lu C'est la possibilité d'une, j'avais 26 ans, mais je me suis pris une claque parce que je ne soupçonnais pas qu'un livre pouvait être comme ça. C'est-à-dire que c'est un vrai roman, mais ça parle de thèmes qui, moi, me touchaient beaucoup. Ça a une forme qui... C'était vraiment un choc pour moi artistique dans ma vie. Il y en a eu quelques-uns comme ça, mais ça en fait vraiment partie. Et pourquoi je disais ça, pardon ?
Par rapport au salon que vous auriez pu faire en tant que lecteur.
J'ai écrit à Houellebecq, j'ai envoyé un mail. Il m'a répondu d'ailleurs, j'étais content. Et voilà, je lui ai dit que ça m'avait énormément touché. Mais je ne connaissais pas les salons, non. Maintenant, je les connais bien, mais à l'époque, je n'en avais pas fait.
Ouais. Alors, comment choisissez-vous vos apparitions dans les salons ? On ne peut pas être partout, si ?
Non, on ne peut pas être partout, ouais. On a pas mal d'invitations, dans des librairies aussi. Ouais. Il faut faire un choix, parce qu'il faut aussi garder le temps d'écrire. Justement, comme moi, je suis assez lent, et j'ai besoin de mes week-ends aussi, puis il y a la vie de famille. Mais il y a des rendez-vous qui sont incontournables. Là, je suis content, je vais retourner à Quai du Polar, qui est pas loin d'ici, qui est à Lyon. Mm-hmm. C'est un salon que j'avais fait en 2019 pour L'Empathie. Et là, c'est vraiment le rendez-vous des gens qui aiment le polar. Mm-hmm. En plus, il y aura une affiche vraiment très forte là cette année.
Il n'y a pas que celui-là, hein, comme rendez-vous incontournable, je trouve. Moi, en France, il y en a plein.
Ouais, par exemple. Je sais
pas, c'est de sens, par exemple.
Ah oui, exactement. Carbon
Noir, je crois.
Oui.
Ouais. Puis il y a le festival où vous étiez au mois de novembre, à Vienne, qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine.
Il y a Vienne, il y a Mulhouse aussi. Ouais. Il y en a plusieurs là. Ouais, ouais. Puis j'en ai plusieurs qui sont prévus.
Ouais, ouais, ouais.
On est en Corse là, donc je suis content, je vais en Corse. Mais il y en a beaucoup. Il y en a en Belgique aussi, Iris Noir. Et après, on se parle aussi entre auteurs. On se dit, tiens, celui-là était bien, celui-là il y avait moins de monde ou c'était moins sympa. Mais on fait des expériences et puis quand ça se passe bien, si on est content, si on est réinvité.
Ah ouais. Il y a des auteurs et des autrices avec lesquels vous avez sympathisé ?
Oui, beaucoup. Ouais, ouais. Là, j'ai fait beaucoup de salons à la rentrée. On retrouve les mêmes. Il y a un peu une ambiance, une ambiance colo par moment.
Ouais.
Et on mange ensemble, on boit des coups ensemble et on retrouve souvent les mêmes. plus de femmes qu'avant. Il y a beaucoup de femmes dans elles se sont mises en groupe, les Louvres du Polar.
Oui, voilà, exactement.
Et voilà, mais il y en a certains que j'ai encore, que j'ai pas croisés, mais on retrouve beaucoup.
Ouais.
On retrouve beaucoup.
Ouais. Ah, vous parlez des femmes et justement les fameuses Louvres du Polar, un collectif de femmes qui, je cite, se fédèrent pour mettre leur travail en valeur et favoriser l'identification du polar féminin francophone, trop souvent en manque de visibilité, malgré la qualité de la production. Alors, l'égalité homme-femme en littérature noire, c'est pas encore ça.
Bah là, ça l'est devenu maintenant quand même.
Ouais.
Là, justement, l'égalité, elles ont fait ça.
Elle est parfaite.
Oui, elle voudrait que les autrices vendent autant que les hommes. Moi, on n'est pas toujours d'accord, mais on discute hein, d'ailleurs. Mais je suis pas sûr que ce soit une question de sexe. Hein. Alors peut-être qu'il y a des préjugés dans l'édition. Ça, oui, j'ai pu entendre certains éditeurs qui pensaient que les hommes ça marchait mieux. Oui, oui, oui. Après, Fred Vargas, je pense qu'elle n'est pas... Elle me met une raclée au niveau des ventes.
Elle a un prénom trompeur, c'est peut-être pour ça, non ?
Ouais, peut-être.
Quand on ne connaît pas, on pense que c'est un homme.
Il y a Karine Gibel qui vend énormément aussi, qui est très connue.
C'est une d'argent.
C'est une d'argent. Il y a... Bon, puis il y a la maîtresse de tout le monde, c'est-à-dire Agatha Christie. Bon, c'était anglais et ça fait longtemps, mais, mais je veux dire, c'est quand même elle qui est la bosse. Moi, je suis pas sûr que ce soit une question de sexe. En tout cas, là, elles ont créé ce collectif, et elles ont beaucoup de visibilité maintenant. Et voilà. C'est bien qu'on se rapproche d'une égalité. Ouais.
Ouais, ouais. Donc, les salons sont là aussi pour faire vendre des livres, évidemment. Pas uniquement les dédicaces. Vous êtes à l'aise avec ce rôle de vendeur, presque de VRP
dans les salons ?
Ouais.
Pas forcément. C'est délicat. Moi, ce que je préfère dans les salons, c'est quand les gens ont déjà lu les précédents. Bon, en général, quand ils reviennent, c'est que ça s'est bien passé. Donc, on peut discuter, qu'on peut voir, je leur demande ce qui leur a plu, etc. Mais quand quelqu'un, au début, quand les gens ne connaissaient pas du tout et venaient en disant « qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez me donner envie de le vendre ?» C'est pas évident de dire « bon, mon livre est très bien. » Alors, il y a des auteurs qui sont, qui n'ont aucun problème à faire ça. Même, y en a, c'est même un peu trop. On n'est pas non plus au marché, je trouve.
Trop, trop.
Faut pas... voilà.
Tout au talent qu'ils ont derrière. Ouais.
Mais le pire, c'est que ça marche. Il y en a vraiment qui forcent pour acheter. Mais après, il faut apprendre aussi un petit peu. Moi, là, j'essaye un peu plus d'aller vers les gens parce qu'avant, j'étais un peu passif en laissant les gens un peu des états d'âme à le mettre en avant. Mais on n'est pas non plus. Il ne faut pas forcer les gens. Moi, je leur dis. Puis moi, j'écris des choses qui sont quand même assez dures. Donc, quand ils me demandent est-ce que c'est dur, je leur dis oui, c'est dur. Je ne sais pas leur dire non, il n'y aura pas de problème. Après, des fois, ils aiment bien justement que ce soit dur.
Ouais. Donc, il n'y a pas que des séances dédicaces dans les salons et les librairies. Il y a aussi des tables rondes. Vous aimez échanger avec votre public à travers ces fameuses tables rondes?
On n'échange pas forcément avec le public, mais on échange avec l'intervieweur.
Il y a des questions-réponses. Oui, des fois, il y a des questions du public.
Oui, c'est intéressant. Ces tables rondes où on parle entre auteurs aussi, on discute entre nous, on échange nos expériences. Et le public, on discute surtout vraiment au moment où ils viennent à la table, quoi, où ils viennent parler des livres. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions et c'est intéressant. On peut vraiment voir... Ils nous posent des questions. Après, ça dépend des salons aussi. Il y a des salons où il y a beaucoup de monde, justement, qui est du polar, c'est compliqué de discuter, mais il y a des salons où il y a, comme nous, quand on s'était vus à Vienne, on a le temps, quoi. On a le temps de discuter un peu, de parler du travail, tout ça, c'est bien.
On a autant le temps quand on va au Quai du Polar, par contre ?
Ah non, je pense pas, non. Ouais. Enfin, moi, j'y suis allé que la première année, donc j'avais un seul livre, un grand format, donc j'avais un peu plus de temps, mais certains auteurs m'ont raconté que ça n'arrête pas, en fait. Quelqu'un, après lui, c'est vraiment c'est énorme, mais Franck Tillier, il reste debout, ça s'arrête pas. Il y a la queue,
ça,
apparemment.
C'est partout.
Et même d'autres auteurs.
Oui, Bernard Minier aussi, il y a la queue partout.
Ça s'arrête pas, Donc là, discuter, c'est un peu plus compliqué, je pense.
Il faut venir dimanche matin, il y a moins de monde.
Peut-être, sans doute.
Alors, Antoine Renan, ce n'est pas uniquement l'empathie, c'est facile pour les deux autres romans que sont Fermer les yeux et S'adapter ou mourir, de se faire une place et d'exister.
Dans le milieu du polar ?
Par rapport à l'empathie, quoi.
Ah, par rapport à l'empathie ?
Oui, par rapport à l'empathie, parce que Antoine Renan, c'est l'empathie, quoi.
Oui. Ah, faudrait pas trop que ça reste comme ça.
Avec l'empathie 2, vous avez mis une couche.
Mais Fermer les yeux a vraiment trouvé son public aussi. Il est arrivé au moment où le lancement de La Vie en Poche. Donc, je crois que beaucoup de gens l'ont lu. L'empathie, c'était particulier, mais même le titre est particulier. Le titre retient, puis c'était mon premier. Donc pareil, ça me pose... Faut pas rester que sur l'empathie, mais ça me dérange pas qu'on m'identifie à l'empathie. Et S'adapte ou mourir était un roman plus particulier qui a pu surprendre. Il a trouvé son public aussi, ça s'est bien passé. Mais c'est marrant parce qu'on parle beaucoup en ce moment de S'adapter ou mourir. C'est un livre soit il y a des gens qui adorent aussi, soit il y a des gens qui sont un petit peu moins rentrés que dans les deux précédents. J'ai pas voulu faire la même chose, en fait, pour le coup, avec S'adapter ou mourir. J'ai voulu proposer autre chose, que ce soit pas qu'un polar. Alors que Fermer les yeux était beaucoup plus thriller de A à Z. On était sur une enquête qui dure sur une vingtaine d'années. Il faut faire des expériences, il faut proposer des choses différentes.
Et votre public, une fois qu'il achète l'empathie, il achète les autres, non, en principe ? Non ?
Il y a beaucoup ça.
Il faut que ça accroche, c'est vrai.
Ça, c'est un vrai plaisir aussi dans l'édition. J'en discutais avec un autre auteur... il est très connu, Olivier Norek, qui disait qu'on lui achetait... qu'on lui parlait encore du premier, quoi. Et ça le surprenait un petit peu. C'est vrai que lui, il fait de la télé, pour le coup. Et à la télé, une fois que c'est diffusé. Alors que là, les romans, ils ont une vie qui est longue. Là, je commence à avoir des lecteurs qui ont commencé par le troisième, puis qui font le deuxième, puis qui font le premier. Ça, j'aime beaucoup aussi. Je trouve ça marrant, parce qu'ils font à l'inverse, quoi. Mais globalement, oui, il y a beaucoup de lecteurs, quand ils aiment, sont fidèles.
Depuis le temps que vous écrivez... et des romans en particulier, avez-vous encore le temps et l'envie de lire ?
Oui, mais c'est un peu plus dur en ce moment. Je remarque ça. Peut-être parce que je vois un peu plus les ficelles aussi. Après, là, c'est très personnel, mais ouais, j'ai un peu plus de mal à rentrer dans certains romans. Peut-être qu'il faut que je lise autre chose. Et puis, il y a toute la phase de documentation aussi qui prend du temps. Là, je lis des bouquins pour le prochain roman. Mais oui, il faut rester lecteur, évidemment. Il faut s'intéresser à ce que font les autres. En plus, on voit des gens dans les salons. Alors, on a envie de lire tout le monde, mais on ne peut pas. Mais ouais. C'est bien de voir un peu ce que fait le copain, de savoir... qu'est-ce qui le caractérise lui dans ses romans. Donc, j'essaie de me tenir au courant.
Qu'est-ce qui vous a plu comme auteur ou autrice que vous avez côtoyé au salon récemment
Alors j'avais lu Henri Leuvenbruck, Nous rêvions juste de liberté. C'est pas vraiment un polar, mais c'est en fait j'étais assis à côté de lui dans un salon et j'ai vu tellement de gens dire lui faire des compliments sur ce roman que je me suis dit il faut peut-être que je le lise ce truc. Et c'est vrai que c'est un très bon roman. Je lis Norek aussi. Là, j'ai acheté une autrice qui s'appelle Max Monoé, mais je n'ai pas encore lu.
Ouais,
c'est bien. Je vais m'y mettre.
Elle sera bouquée prochainement, je crois.
Ouais. Et voilà, je ne lis pas que ça. Je lis aussi La Littérature Générale. Je lis Virginie Despentes. Je continue de lire Houellebecq. Même si je n'ai pas trop accroché au dernier, il faut que je m'y remette. Je lis Stephen King aussi.
Est-ce que vous lisez forcément le prix Goncourt qui sort ?
Non.
Non.
Pas du tout, non. Je ne sais pas s'il faudrait que je le fasse pour le coup, mais non, non.
Non, non, pas. Vous n'êtes pas obligé.
Non.
Ah non, mais... Pas...
Mieux lire les autres, ils ont moins de lecteurs, il faut se tourner, il faut exactement. Lire un petit peu les autres.
Exactement. Donc l'Empathie est sortie en version anglaise.
C'est un vrai calvaire. Je suis en train de voir avec la maison d'édition, les Anglais.
Ah, c'est pas vrai.
Si, c'est vrai. Il y a une parution numérique.
D'accord.
Mais ils sont censés le sortir sur papier. Et là, ils jouent pas du tout le jeu. En fait, la direction a changé, ça a pris du temps. Et ils ont un peu bazardé le truc. Donc là, je suis en train de voir avec la maison d'édition parce que ça va pas du tout.
Ah.
Mais donc, non, il n'est pas vraiment. En tout cas, il n'est pas sur papier en langue anglaise. Non, il est juste sorti en tchéquie, ce qui est déjà bien. J'étais content, il était en tchéquie. Mais...
En version tchèque, alors ?
Ouais.
D'accord.
Petite édition tchèque. C'est tout. Non, sinon, il n'y a pas énormément de traduction pour l'instant. D'ailleurs, c'est quelque chose, là, j'aimerais bien que ça bouge un peu à ce niveau-là.
Au moins en
espagnol. C'est important pour un auteur.
Au moins dans les langues autour de la France
Je prends tout. Ouais. On a, de toute façon, on a envie, quand on est auteur, qu'un maximum de gens lisent ce qu'on a fait. Donc, Espagne... je pense que la Russie, c'est mort, hein, mais j'avais un confrère qui m'avait dit que son roman s'était plus vendu en Russie qu'en France. Ça doit être génial, les auteurs qui sont traduits en polonais, en norvégien, etc. C'est formidable, ouais. Mais c'est pas évident, il faut arriver à faire son trou.
Ah bah oui. Les personnages de l'Empathie 1 et 2 pourraient-ils devenir récurrents sans forcément qu'il y ait l'Empathie 3?
Ah, ça pourrait, c'est peut-être ce qui arrivera. Alors récurrent, je sais pas. Mais moi, j'avais prévu d'autres suites à l'Empathie. En fait, le 1, j'avais pas prévu qu'il y ait un numéro 2. Mais en me lançant dans le numéro 2, ça a ouvert des axes pour d'autres possibilités. Et là, je sais pas si je vais le faire, parce que ça dépend aussi de l'accueil, ça dépend de l'envie des gens. Il faut que ça coïncide avec ce dont moi j'ai envie. Donc là, j'ai pas encore assez de recul par rapport au 2. Mais en écrivant le 2, j'ai parfois pensé à un 3, un 4 et même plus. Pas pour me dire, je vais en faire 50. Non, c'est juste que j'ai des axes. Là. En fait, ça a ouvert un peu comme une série télé, c'est-à-dire que j'ai des idées pour des retournements assez importants entre un 3, un 4, etc. Je ne sais pas si je vais le faire. Faire revenir les personnages. Alors moi, j'aime bien faire revenir les personnages en personnages secondaires ou même tertiaires dans des romans. C'est-à-dire que ce soit un même univers et que de temps en temps, ils viennent faire un petit coucou au lecteur. Ça, j'aimais beaucoup ça en tant que lecteur. Moi, par exemple, chez Bret Easton Ellis, c'était quelque chose qui m'avait... Je me souviens de ma sensation de lecteur, en fait. Mais même si on sait que c'est faux, il y a un côté un peu magique à se dire « Ah, mais ce personnage, du coup, connaît celui-là. » Voilà. Et du coup, moi, en tant qu'auteur, j'avais envie de faire la même chose. Et donc, je fais souvent revenir des personnages secondaires des personnages principaux d'un roman en secondaire ou tertiaire dans d'autres romans. Donc ça pourrait arriver. Les faire revenir en personnages principaux, il faut que je vois si j'ai des choses à leur faire faire, en fait. Parce que moi, dans mes romans, j'aime bien... Enfin, souvent, la façon dont j'écris mes romans, c'est la psychologie a un rôle central, en fait. Et donc, il faut qu'ils aient quelque chose. C'est pas juste une enquête, quoi. C'est pas juste, on va chercher des indices, on va chercher le serial killer. Ça, moi, même en tant que lecteur, c'est pas quelque chose qui me passionne. Et donc, j'ai besoin qu'il y ait, dans l'empathie, on a vraiment le parcours de vie d'Anthony qui est central par rapport au roman. Et donc, pour qu'Anthony revienne plusieurs fois, il faut qu'il ait vraiment des choses importantes à faire, quoi.
Ouais. Côté cinéma et télévision, l'empathie pourrait-il un jour être adapté ? Sera-t-il un jour adapté ?
Alors, l'empathie, il n'y a pas eu d'offre de producteurs.
C'est
marrant. Ouais, c'est marrant parce que vraiment, il y en a beaucoup en fait des offres de producteurs. Moi, j'ai plein de confrères, de consoeurs qui ont des offres. Ça ne se fait pas forcément. Hein. Même là, 95% du temps, ça ne se fait pas.
En plus,
ils signent le truc, c'est en développement, puis ça n'aboutit pas. Là, bah, en fait, je ne me suis pas tant planté que ça parce que moi, ce que je disais tout à l'heure, quand je me suis lancé dans l'empathie, je me suis dit que les producteurs n'en voudraient pas. Bah, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que là, ils voient pourtant que ça marche, qu'il y a un vrai lectorat, qu'il y a eu un vrai public, mais ils n'y vont pas. Et je sais pourquoi ils n'y vont pas. Moi. Ils ne peuvent pas y aller parce que c'est trop radical. En tout cas, pour la télévision en France, pour le cinéma, pourquoi pas. Mais télévision en France, jamais TF1 va adapter l'empathie. Ou alors, ils vont tout transformer, en fait. Mais les personnages sont trop... les gentils sont pas assez gentils et les méchants sont pas assez méchants. Ceux qui savent faire ça, ce sont les Américains. Les Américains, j'étais passionné des séries télé des années 2000. Pour le coup, il y a eu un vrai âge d'or. Je pense qu'on en est un peu sorti, contrairement à ce qui se dit. Mais là, je pense qu'on est vraiment en fin de cet âge d'or. Enfin, moi-même, je pense que depuis 2012-2013, on n'y est plus, en fait. Mais ils ont fait des séries incroyables, en fait, avec des retournements de situation de fou et des personnages qu'on aurait pu détester, mais qu'on finissait par aimer. Des personnages qui n'étaient pas sympathiques. Bon, il y en a un qui est très connu dans Breaking Bad, qui commence, il est sympa, mais il finit, c'est un tueur de la masse, c'est un chef mafieux qui tue des gens. The Shield aussi, le pilote commence par un type qui va tuer quelqu'un qui n'est pas méchant, quoi. Il le tue parce qu'il doit se débarrasser de lui. Et pourtant, on va s'attacher à ce personnage. Ça, les Américains savent très bien le faire. En France, les décideurs, ils n'aiment pas trop, ils sont frileux parce que c'est pas assez gentil. Il faut que ce soit... Bon, on m'a déjà sorti des phrases comme ça dans des rendez-vous de production. Il faut que ce soit plus acceptable pour le entre guillemets, pour le spectateur. Donc ça, moi, ça m'emmerde. Parce que je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Et c'est ce qu'aiment les gens, justement. C'est cette zone grise aussi. Et donc, l'empathie... Je ne sais pas si ça deviendra un film. Moi, je l'ai vraiment écrit pour que ce soit un livre. Donc, si ça ne devient jamais un film, ce n'est pas grave. En revanche, bon, ce qui est intéressant quand ça devient un film ou une série, c'est qu'il y a une visibilité et ça donne une vie supérieure. Puis après, vous avez des gens qui lisent les bouquins aussi, donc c'est bien. Mais j'ai toujours pensé, même si ça fait un peu mégalo, je ne pense pas que ce soit mégalo, c'est juste que je pense que si un jour quelqu'un le prend, ce sera plus anglo-saxon. On verra, peut-être que je me trompe, mais je vois plus les anglo-saxons adapter ça. Pour ça, il faudrait déjà qu'ils l'aient entre les mains, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'il y ait justement cette fameuse édition anglaise, et ça m'embête qu'ils ne sortent pas vraiment. Quoi.
Ouais. Alors, vos quatre romans sont sortis en livre audio et rapidement, par rapport à certains autres. Hein. Le format est important pour vous, le livre audio ?
Oui, moi j'aime beaucoup ça. J'ai dit tout de suite, je trouve ça assez magique. Et je remarque que ça, là, alors là, sur l'Empathie 2, j'ai vraiment eu beaucoup de chroniques sur Internet, de gens qui m'ont dit, je l'ai écouté. Beaucoup plus que sur les précédents. Il y a eu un boom, je crois, du livre audio. Je ne sais pas ce qui se passe. Honnêtement, je ne sais pas. Si les gens, je crois qu'il y a eu des offres aussi de livres audio. Ils ont peut-être poussé le marketing. Je ne sais pas si les gens les écoutent dans la voiture, si les gens les écoutent en faisant leur jogging ou autre, ce que je trouve très sain, moi, parce que c'est bien de faire ça en... Dans la voiture, c'est génial, je veux dire. Bon, après, qu'ils écoutent la radio aussi, hein, ou en allant courir. Et je trouve ça super, ouais, c'est assez magique. Alors, le livre audio, donc moi, j'ai pas la main, hein, c'est vraiment un acteur qui est... Quoique j'aimerais bien le faire un jour, peut-être que sur le premier, on m'avait dit non, c'est pas bien quand c'est l'auteur, mais je remarque qu'il y a certains auteurs qui le font. Alors, sur le dernier, il y a un truc qui ne m'a pas plu. J'ai écouté, il ne fait pas les liaisons. Moi, c'est vrai que, parce que moi, je lis beaucoup mes textes à voix haute quand je les... Et je fais les liaisons. Là, il ne les faisait pas. Mais apparemment, ça n'a pas gêné les gens. Les gens m'ont dit... Enfin, ils s'en foutent.
Non, ça n'a pas gêné. Hein. Non, je peux
le dire. Les gens, là, ils m'en ont beaucoup parlé. Et non, juste une anecdote. Moi, sur le premier, ce qui m'avait marqué, j'avais écouté le premier. Et ce qui est génial, c'est d'écouter les dialogues, en fait. Parce que là, pour le coup, on se croit un peu... Voilà, j'entendais un acteur qui jouait les dialogues, il change un peu sa voix, puis il choisit de le jouer comme il le veut. Là, moi, je ne le dirige pas du tout. Donc, c'était assez magique d'entendre, il y avait des discussions entre Tony et sa mère, et d'entendre échanger un peu sa voix et se balancer des pics. Ça, j'avais vraiment aimé.
Ouais. Donc, j'ai lu que la musique aussi était importante pour vous. Alors, quel genre vous accompagne, que ce soit pour écrire ou dans la vie de tous les jours ?
J'écoute, je suis assez grand public en musique, j'écoute un peu de radio, j'écoute beaucoup de groupes des années 80-90, un peu voilà, quand j'étais ado, donc je sais pas, Sting, Queen, tout ça, de la techno aussi, j'écoute un peu de rap, je suis assez ouvert, j'écoute des musiques de films, et quand j'écris, j'essaye d'écouter des musiques qui vont stimuler mon imagination. Mais j'en écoute pas tout le temps non plus. J'ai besoin de moments de silence, mais à certains moments, j'ai besoin de musique pour essayer de... Ça, c'est assez mystérieux. Des fois, il y a une musique qui va déclencher quelque chose. On ne sait pas trop pourquoi. Et c'est assez magique quand ça se passe.
Alors, on retrouve souvent dans les polars les playlists hein, des autrices et des auteurs. Quelle serait la vôtre ?
J'en mets pas. Moi, je suis contre ça, en fait. non, je crois qu'il y a de très gros auteurs qui font ça, Maxime Chattam, j'en connais d'autres aussi qui font ça. Je trouve que ça fait un peu la lecture qui court après le cinéma, en fait, d'orienter les gens comme ça. J'ai envie de laisser les gens complètement libres de se faire leur propre musique. De toute façon, dans l'édition, il y a un truc magique, j'adore ça. C'est parce que moi, en fait, je faisais pour le coup, ça revient sur les courts-métrages. Les courts-métrages, qu'est-ce que c'était compliqué de trouver des décors où on nous accueille. Il fallait que. Parce qu'on n'avait pas de sous, donc il fallait se faire accueillir à des endroits. Il fallait que les décors correspondent à ce que j'avais en tête. Parce que je ne suis pas très souple là-dessus, en fait. Quand j'ai un décor en tête, c'est compliqué pour moi de passer complètement à un autre décor. Voilà, tout était à faire, en fait. Les costumes, tout. Il faut tout aller chercher au cinéma. Tout aller chercher et le mettre devant la caméra. Dans le roman, on est beaucoup plus libre. Et parfois, quelques phrases suffisent à déclencher... En fait, on joue avec l'imagination du lecteur. Et ça, chaque lecteur va se faire ses propres images. S'il pouvait dessiner, il n'y en a pas un qui me ferait les mêmes décors sur ce que je raconte. Parfois, quelques lignes suffisent. Et ça m'amuse parce que des fois, les lecteurs me disent « Ah ben là, je voyais complètement le décor que vous avez décrit. C'est fou, j'y étais complètement. » Et moi, je sais que je n'ai pas mis grand-chose pourtant. J'ai mis quelques petits éléments, mais ça a marché. Et du coup, voilà. Non, pour moi, un roman, c'est juste des lignes de texte. Les gens, s'ils ont envie de mettre de la musique en lisant, ils mettent de la musique. Mais moi, j'en mets pour moi à écrire. Mais je vais absolument pas orienter les lecteurs là-dessus. Et c'est à eux de faire l'autre partie tout seul.
Vous êtes en train d'écrire un nouveau roman ?
Oui, je suis au tout début là.
D'accord.
Je suis au tout début. J'ai fait mon plan et je vais pas tarder à me lancer.
Antoine Renan, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B.
Merci à vous, c'est un grand plaisir.
Rappelons que votre nouveau roman, L'Empathie 2, est paru le 12 octobre 2023 aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. On peut se procurer, sans oublier les trois premiers, dans toutes les bonnes librairies et les médiathèques autour de Bourg-en-Bresse. La preuve de votre succès, la liste d'attente est longue à la médiathèque de Perona, par exemple. Il y a 7 personnes en attente.
Ah super, sur lequel ?
Le dernier.
Sur L'Empathie 2 ?
Ben ouais.
Ah ben génial.
Ouais, ouais.
Formidable.
On peut suivre votre actualité sur les réseaux sociaux.
Oui, hein, sur Instagram surtout et Facebook.
Antoine, bonne chance pour la suite de vos aventures de romancier. Bonne lecture, bon salon et à bientôt sur Radio B.
Merci beaucoup.